Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Constance Bien-Aimée, l'organisatrice du Printemps des sciences humaines et sociales de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marine Calmette, Grégory Salles et Jean-Christophe Duhamel pour la dernière séance de cette manifestation. Sachez que cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du cycle de webinaires Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales, animé par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme. Dans le cadre de la coordination crise sanitaire et environnementale, humanité, sciences sociales, santé publique, autrement dit HS3P crise. Les échanges de nos invités, entre nos invités, pardon, dureront à peu près 45 minutes et seront suivis d'un temps consacré aux questions du public. Vous pouvez, comme d'habitude, nous faire remonter vos questions via le chat en cliquant sur Converser au bas de votre écran. Je remercie infiniment Marine Calmette et Grégory Salles d'avoir accepté de participer à cette rencontre et Jean-Christophe Duhamel, ingénieur de recherche en droit à l'Université de Lille, d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre.
Merci, merci Constance de me transférer la parole. Alors, je suis très heureux de pouvoir animer aujourd'hui cette rencontre autour du thème de la criminalité environnementale. L'intitulé exact de cette conférence débat est Vers la reconnaissance juridique et sociale de la criminalité environnementale, point d'interrogation. Eh bien, ce point d'interrogation, je pense qu'on peut véritablement réfléchir dessus et s'interroger sur le fait, n'est pas, se demander s'il ne serait pas désuet aujourd'hui de mettre un point d'interrogation. En effet, ce point d'interrogation remonte à divers débats que nous avions eus avec Constance quant à l'intitulé précis qu'il convenait de retenir pour cette rencontre. Et cette discussion entre nous remonte à déjà plus d'un an. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid, il y a eu le report de ce printemps des SHS, et il y a eu aussi et surtout beaucoup d'évolutions juridiques dans le débat autour de la criminalité environnementale. On sait qu'au milieu de l'année 2020, la Convention citoyenne pour le climat a préconisé la reconnaissance juridique d'un crime d'écocide. Et Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, annoncé de manière assez triomphale le 23 novembre 2020, le glaive de la justice va s'abattre enfin sur les bandits de l'environnement. Depuis, la loi climat est en cours de procédure parlementaire et beaucoup de débats opposent partisans et détracteurs de cette reconnaissance de l'infraction d'écocide. Quoi qu'il en soit, donc, on peut constater que la thématique de la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit clairement dans l'actualité. Et pour en discuter, donc, comme nous l'a dit Constance, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants particulièrement autorisés dans le champ de cette thématique. D'abord, donc, Marine Calmet, qui est avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Elle est également présidente du programme associatif Wild Legal, est engagée dans de nombreuses causes de protection de l'environnement, notamment en Guyane française, s'agissant de la question de l'exploitation aurifère. Marine Calmet, vous publiez le mois dernier un livre qui s'intitule Devenir gardien de la nature et qui est sous-titré Pour la défense du vivant et des générations futures aux éditions Tana. Grégory Salles, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS au sein du Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, un laboratoire qu'on connaît bien ici sous son acronyme le CLERCE. Vous avez co-signé en 2019 une étude sur la criminalité environnementale, état des lieux et perspectives, qui est parue dans la revue Déviance et Société. Vous êtes également lauréat de l'appel à projet 2019-2020 du Réseau national des maisons des sciences de l'homme, avec un projet intitulé La criminalité environnementale à l'ère de la catastrophe écologique. Et enfin, vous publiez également, le mois dernier, un livre intitulé Superyacht, luxe, calme et écocide aux éditions Amsterdam. J'espère ne rien avoir oublié. Alors, j'aimerais commencer ce débat entre nous, entre vous, par une première question pour lancer la réflexion. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous définir ce qu'il faut entendre par la criminalité environnementale et nous dire si l'incrimination d'écocide, telle qu'on en débat actuellement au Parlement, serait à la hauteur de la lutte contre cette criminalité environnementale. Alors, je ne sais pas si c'est Madame Calmé ou Monsieur Salle qui veut démarrer, mais la parole est à vous, je vous en prie, peut-être Marine Calmé en premier.
Alors, dans les travaux que nous faisons avec l'association Wild Legal, nous développons plus particulièrement le crime d'écocide sous l'angle en fait d'un crime qui permettrait de sanctionner en fait les atteintes qui sont portées de manière grave, étendue ou durable à la nature et qui mettent en danger en fait l'état de conservation de nos écosystèmes. En cela, en fait, ce crime, il vient combler une lacune de notre droit existant qui est en fait dans notre code pénal, puisque notre code pénal prévoit que les intérêts fondamentaux de la nation peuvent être défendus évidemment devant la justice, et notamment les intérêts écologiques de notre nation. Or, le code pénal n'a prévu aucune disposition relative à la protection de ces intérêts fondamentaux de notre nation. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a des activités, parfois légales, parfois illégales, qui portent atteinte à l'équilibre biologique de nos écosystèmes, qui mettent en danger la protection de notre population et de nos territoires, et qu'aujourd'hui, il nous manque donc un outil juridique pour faire face à cette situation. C'est sous cet angle-là que nous travaillons sur ce qui est la criminalité environnementale, et donc nous imaginons le crime d'écocide en fait comme l'atteinte la plus grave placée en haut de la pyramide de ces infractions, et de ce crime d'écocide, ensuite, évidemment, il faut compléter l'ensemble de notre arsenal juridique par tout un tas de mesures, certaines qui existent déjà dans nos différents codes, et puis d'autres qui restent à inventer pour vraiment s'adapter à l'expérience que nous faisons sur le terrain et qui montrent que nous avons encore besoin de faire un grand chemin ensemble pour adapter notre droit à la réalité et au concret de ceux qui défendent la nature sur le territoire.
Alors, juste avant de passer la parole à Grégory Salle, vous insistez sur le fait qu'ici, on se placerait véritablement tout en haut de la pyramide, sur une échelle de gravité, j'allais dire, des infractions commises à l'égard de l'environnement. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que vous avez été une fervente défenseuse de la qualification proprement criminelle de cette infraction, qui serait donc passible de la cour d'assises, alors qu'aujourd'hui, on a bien vu dans les débats qu'on va très vraisemblablement se diriger vers une qualification délictuelle et donc de faire de l'infraction d'écocide un délit et non un crime. Quel est votre regard là-dessus? Je suppose que vous êtes très déçu par rapport à cette qualification.
Alors, effectivement, et je ne serais pas aussi catégorique sur le fait qu'on va se diriger vers un délit, parce que, heureusement, grâce au travail que nous avons fait aussi de sensibilisation des députés et des parlementaires en général, il y a une prise de conscience du fait que, justement, le fait de parler de délit dans le cas d'un écocide est une aberration juridique. Elle est à rebours des négociations internationales, notamment pour porter le crime d'écocide devant la Cour pénale, et elle s'inscrit en faux par rapport à justement ce dont nous avons besoin sur nos territoires. D'ailleurs, je vous invite, je le mets dans le chat tout de suite, à lire cet article que nous avons publié sur justement les députés qui, comme à gauche comme à droite, ont déposé des amendements justement pour retirer la qualification d'écocide à ce délit de pollution en fait qui est proposé par le gouvernement, afin de ne pas se mettre en porte-à-faux avec le progrès tel qu'il est souhaité au niveau international et national, et ne surtout pas fermer la porte justement à une proposition plus ambitieuse dans une mandature prochaine, je pense, parce que celle-ci, malheureusement, ne nous a pas beaucoup donné satisfaction. Donc, je ne serai pas aussi catégorique. Et en plus de cela, donc, il y a vraiment toute cette dimension de discussion qui est en cours et des débats qui ne sont pas du tout fermés à l'Assemblée nationale sur ce sujet.
D'accord. Grégory Salle, une réaction, oui. Une réponse à la première question?
Je vais rebondir sur l'ensemble de la question. Alors, d'abord, sur la question de l'écocide, on peut dire plusieurs choses. Une première très simple, c'est que c'est d'abord un débat international avant d'être un débat national. Et donc, il faut toujours avoir en tête que, avant la question des modalités d'intégration ou non de ce thème-là et de ce qu'il recouvre dans les législations nationales, c'est d'abord un débat pour faire reconnaître l'écocide comme un crime international. Donc voilà, il y a ce contexte-là qui est important. Et puis une deuxième chose, comme l'a dit Marine, on peut mettre ça au sommet, disons, de la pyramide ou de la hiérarchie des infractions. Et donc ça veut dire que Ce qu'on appelle criminalité environnementale désigne ou peut désigner un ensemble bien plus large que l'écocide et qui recouvrirait des atteintes à l'environnement d'une gravité moindre, même si elles peuvent être graves, c'est-à-dire plus ponctuelles, moins durables dans le temps, etc. Et en même temps, même le terme de criminalité environnementale n'a rien d'évident, et je voudrais essayer de faire le parallèle avec les deux. Sur la question de l'écocide, il y a des débats tout à fait vifs sur les contours et le contenu de cette notion. Et ce ne sont pas du tout des débats, je dirais, superficiels ou comme ça, qui portent sur des points de détail. Ce sont des débats qui sont objectivement très difficiles à trancher. Je nomme deux points de débat principaux, mais on pourrait en donner d'autres. Il y a par exemple, qu'est-ce qu'on prend comme critère de détermination de l'écocide entre un critère qui serait le critère de l'intention et le critère de la conséquence, c'est-à-dire est-ce que ce qui fait la qualification de l'écocide, c'est qu'on sait ce qu'on fait au moment où on le fait, c'est la pleine conscience de la gravité de l'acte, ou est-ce que c'est les conséquences de l'acte telles qu'on peut les mesurer scientifiquement après coup? Et c'est une vraie question. Et puis un deuxième point de débat, c'est la question de la reconnaissance ou non d'un statut juridique à des entités naturelles, environnementales, non humaines. Là non plus, il n'y a pas un accord parfait. Mais j'insiste là-dessus pour dire que ce n'est pas seulement une question de est-ce qu'on valide cette notion-là ou pas, c'est qu'il y a aussi des débats intellectuels, mais qui sont vraiment très très riches autour de cette notion-là. Mais il y en a aussi sur la criminalité environnementale en général, et juste pour qu'on continue la discussion, en fait c'est un terme ou un vocable, plutôt une expression qui est elle-même problématique, parce que c'est un décalque de l'anglais en fait. Hein. Quand on dit criminalité environnementale, on fait une sorte de décalque formel linguistiquement de « environmental crime » en anglais. Mais « crime » en anglais, ça désigne en fait un ensemble plus large que « crime » en français, juridiquement parlant, puisque « crime », c'est, là encore, si je mets à part l'écocide, hein, mais sur la tripartition des infractions en France, ben c'est le niveau supérieur, au-dessus des délits. Alors qu'en anglais, c'est un terme plus générique qu'on utilise pour des infractions en général, en fait. Et d'ailleurs, souvent dans les films, c'est une erreur qui est souvent commise dans les films en VO, en sous-titrage, ils traduisent presque systématiquement « crime » par « crime ». Mais en fait, ça ne va pas parce que « crime », c'est des graffitis, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, il faudrait plutôt dire « délinquance » ou « infraction ». Donc tout ça pour dire que, outre évidemment les actes ou les comportements ou les actions dont on va parler ici, il y a toute une importance des mots et de leur connotation. Et si « écocide », par exemple, est sans doute le plus… disons celui qui a la connotation la plus disons dramatique, hein, sans du tout je dis ça de manière péjorative, on peut essayer de faire une espèce de continuum jusqu'à des termes qui sont beaucoup plus neutres ou d'apparence neutre, comme celui de contention environnementale. Hein, contention environnementale, ça peut désigner quelque chose qui est en fait très très voisin, mais on voit bien que la connotation n'est pas du tout la même. Donc voilà, je dis ça pour qu'on ait bien en tête que quand on parle de contentieux, d'atteinte, de transgression, etc., et puis éventuellement d'écocide, on manipule des catégories qui peuvent avoir des sens assez distincts.
Donc si je vous comprends bien, à la fois Grégory et Marine, on est vraiment ici sur un paysage qui doit être assez clarifié. La criminalité environnementale concerne le contentieux environnemental qui peut être servi par tout un cadre juridique de textes, de réglementations plus ou moins sévères relevant à la fois du domaine pénal, mais pourquoi pas aussi du domaine civil. Cette criminalité environnementale, il faut véritablement donc bien la distinguer de la qualification pénale spécifique que pourrait être donc l'écocide, qu'elle soit criminelle ou qu'elle soit d'ordre délictuel. Alors, je pense que là, il y a quand même une très grosse clarification qui vient d'être faite et qui était vraiment salutaire. J'aimerais simplement rebondir sur une des dernières choses que vous avez dites, Grégory, sur la question de savoir si on faisait prédominer le critère de l'intention pour aboutir à une sanction ou le critère de la conséquence sur la nature, sur l'environnement, pour aboutir au principe d'une sanction. Mais précisément, une des caractéristiques du droit pénal, c'est bien d'aboutir à ce que les infractions d'imprudence non intentionnelle, hein, les infractions non intentionnelles, infractions d'imprudence, soient par principe bien moins réprimées que les infractions intentionnelles. Est-ce que donc vous ne pensez pas fort légitime quand même de prévoir, on va dire, une pénalisation de l'écocide à deux vitesses, selon que l'intention de polluer existe ou selon qu'elle n'existe pas, mais qu'elle résulte simplement d'une imprudence. Est-ce que c'est une solution viable ou est-ce que vous rejetez cette solution? Et je m'adresse à la fois à vous, Grégory, mais également à Marine.
On fait comme ça, je commence et puis je laisse la parole à Marine. Ce n'est pas une position personnelle, hein. J'essaie juste de pointer du doigt ou de signaler tout simplement, de mettre en lumière le fait qu'il y a un vrai point de discussion, mais là je pense vraiment plutôt au débat international qu'à la France proprement dit, sur ce point-là, et donc avec des conceptions de la pénalité éventuellement différentes. Une manière de le dire qui vaut en anglais comme en français, c'est de distinguer disons les actes, ou en l'occurrence disons des crimes ou des délits, par commission ou par omission. Hein, peu importe ma position personnelle, le point c'est de savoir qu'il y a un vrai débat là-dessus et que c'est un débat objectif, je veux dire qui n'est pas du tout facile à résoudre et qui n'est pas un petit désaccord de surface. C'est un vrai enjeu parce que d'un côté, il y a des actes qui peuvent être parfaitement non intentionnels mais qui sont d'une gravité objective telle qu'on pourrait considérer que ça mérite une qualification criminelle ou simplement une qualification pénale. Et inversement, il peut y avoir des dommages qui sont d'une ampleur moindre ou qui peuvent se résoudre assez facilement dans le temps et revenir à l'état normal, mais qui ont été commis en connaissance de cause. Voilà. Et c'est l'un des critères qui importe, et c'est aussi pour essayer de restituer un peu, disons, l'ampleur de la discussion là-dessus, parce que je ne veux pas trop non plus dire que le débat est très réducteur et tout, c'est toujours un peu facile de faire ça, mais quand même, c'est vrai qu'il a tendance à se focaliser sur est-ce qu'on peut appliquer ou pas, est-ce que c'est une notion qui tient juridiquement, peut-être en oubliant qu'il y a derrière des débats qui sont tout à fait centraux.
Je vais préciser du coup qu'effectivement, c'était prévu tel quel dans la proposition que nous avions formulé avec les citoyens. Donc, je précise que l'association Why Legal a travaillé depuis le début de la Convention citoyenne en soutien en tant qu'expert extérieur, comme de nombreuses autres personnalités, nous avons été auditionnés. Et avec ces discussions, enfin, au bout de ces discussions, est arrivée évidemment une proposition qui prévoyait évidemment une gradation en fonction de l'élément intentionnel. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations dans lesquelles on a commis une maladresse, dans lesquelles effectivement les choses échappent à notre volonté, mais où parce qu'on aurait pu prendre des précautions nécessaires, on est tout de même un peu responsable de la situation qui est arrivée. Il y a des situations dans lesquelles manifestement on a manqué à des obligations de sécurité, de prudence, et puis il y a ensuite l'intentionnalité qui arrive et qui là donc montre en fait c'est un peu l'échelle hein, de cette pyramide, c'est-à-dire que tout en haut de cette pyramide là on a voulu ce qui est arrivé et donc on est pleinement responsable. Donc c'est une proposition qui avait été formulée par évidemment la Convention citoyenne et qui avait été accompagnée aussi par Why Legal au sein des ministères. On avait défendu auprès de Barbara Pompili et du garde des Sceaux. Et donc, évidemment, ça s'entend, c'est-à-dire que dans le droit, il y a toujours une prévision, une gradation des peines en fonction de l'élément intentionnel lorsque, justement, on veut pouvoir catégoriser, être juste aussi en fonction des infractions qui sont commises. Donc, c'était une proposition qui avait été formulée et qui donc n'est pas en fait contradictoire. D'ailleurs, notre position actuellement, c'est de dire que la proposition du gouvernement, en soi, on ne s'y oppose pas, nous. On dit que c'est en fait, à la base, il faut savoir que cette proposition de délit d'écocide, telle que formulée par le gouvernement, elle est issue d'un rapport de 2019, bien antérieur à la Convention citoyenne, qui s'appelait Justice pour l'environnement, et qu'à l'époque, ça s'appelait le délit générique d'atteinte à l'environnement. Alors, c'était vachement moins glamour, ça faisait vachement moins bien sur les plateaux télé, ça c'est sûr. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que ce que propose le gouvernement, soit, c'est bien, c'est une proposition qui va peut-être améliorer la poursuite des délits de pollution, puisqu'il s'agit de délits de pollution à l'air, au sol ou à l'eau, mais ce n'est en aucun cas un écocide telles que c'est prévu par justement les organisations qui travaillent sur ces sujets depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il s'agirait aussi de respecter le travail et l'histoire de ce concept et de ne pas sortir du chapeau justement comme ça des propositions pour faire bien dans les médias et pour des petites phrases type le glaive de la justice va s'abattre justement sur les bandits de l'environnement, ce qui est absolument ridicule au regard justement de l'impact que pourrait bien avoir cette proposition, parce que évidemment quand on la confronte au réel, quand nous on regarde des cas qui arrivent très concrètement. Par exemple, on a testé l'autre jour, on a organisé un webinaire avec différentes personnalités justement d'associations qui se battent sur le terrain véritablement contre l'écocide, et notamment le président de l'association Val en Transition qui se bat pour faire reconnaître justement la destruction du fleuve Escaut, qui est un fleuve transfrontalier avec la Belgique, et bien même une pollution massive justement parce que dans cette situation, il n'y aurait pas l'intention, on aurait du mal à démontrer l'intention, et en plus une durée plus longue que 10 ans, puisque c'est ça que propose le gouvernement, une durée d'un écocide supérieure à 10 ans, et bien on n'obtiendrait rien dans les faits avec la proposition du gouvernement. Et donc, en fait, en se confrontant au réel, on voit très bien que la proposition du gouvernement elle a de très fortes limites. Et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que c'est plutôt de l'esbrouf et qu'on est en train de parler, de faire monter comme ça le soufflet qui risque bien de redescendre une fois qu'il faudra aller poursuivre des auteurs de destruction environnementale dans les tribunaux.
Alors, d'autant que si je me suis... Oui, Grégory, vous voulez rajouter quelque chose? Non?
Vas-y, Jean-Christophe.
D'autant, Marine, que je m'étais replongé dans une tribune que vous aviez fait paraître à Mediapart. Il y avait un point très, très intéressant dans les propos que vous y teniez. Vous disiez, et d'ailleurs, c'est un point de crispation hein, de la part, faire simple, des entreprises pollueuses. C'était, finalement, vous mettiez le doigt sur le fait que la plupart des activités polluantes aujourd'hui polluent de manière tout à fait réglementaire et qu'il y a des autorisations administratives qui sont de toute façon concédées aux industriels et qui n'imagineraient donc même pas pouvoir être poursuivis du fait de leurs activités à partir du moment où elles ont été déclarées de manière tout à fait réglementaire et admises par les autorités étatiques et effectivement préfectorales, par exemple. Et donc ici, on comprend bien que la volonté qui serait la vôtre, j'allais dire, de réaliser une véritable infraction d'écocide dans le droit français, ça remettrait même en cause potentiellement tout ce régime d'autorisation administrative à polluer.
Oui, entièrement. En fait, ça ne le remettrait pas en cause. C'est juste que l'industriel lui-même se dirait « Oh là, mais est-ce que je peux vraiment demander cette autorisation administrative en sachant que ce que je fais va potentiellement m'être reproché ?» Alors, il faut bien voir que le crime d'écocide, c'est une proposition qui est forte pour renforcer la criminalité environnementale, mais justement, ça soulève un autre lièvre, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des dérogations accordées à des grands pollueurs qui sont donc dans la totale légalité pour détruire l'environnement. Et il y a beaucoup comme ça d'activités extrêmement polluantes, extrêmement impactantes, qui sont légales d'un point de vue administratif, mais injustifiables d'un point de vue de la destruction de la nature qui est provoquée et du point de vue des droits des générations futures qui sont elles aussi impactées. Je vous prends un exemple très concret, c'est la pollution au Bouts Rouges, au large de Marseille, sur laquelle nous avons organisé une campagne, qui est une destruction qui a été tout à fait légalisée d'un point de vue administratif. L'autorité administrative, le préfet, a délivré des accords, enfin des autorisations, pardon, à déverser des millions de tonnes de boue directement dans l'océan, a détruit du coup littéralement l'ensemble de l'écosystème présent au large de Cassis, cette fosse extrêmement riche en biodiversité. Ça, c'était tout à fait légal, alors même que d'un point de vue des conventions internationales, pour autant, c'était illégal, c'était contraire à la convention de Barcelone. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, parce que le droit administratif lie les mains du juge pénal, on ne peut pas aller poursuivre l'industriel, cette destruction qui remet en cause les droits de la nature, les droits des générations futures. Et donc, voilà de quoi on veut en fait se libérer demain, mais évidemment, la reconnaissance d'un crime crime d'écocide nécessite aussi, je pense, une vraie prise de conscience de la part de nos administrations. Il faut absolument revoir nos seuils de tolérance en manière justement d'autorisation administrative. On ne peut pas juste punir d'un autre côté. Il ne faudrait même pas, il ne faut plus autoriser ce genre de comportement vis-à-vis de la nature. Et là, l'enjeu est systémique. Il n'est pas juste justement pénal, il est administratif, il est civil, il est partout. Justement, cette lutte pour la protection de la nature, elle est vraiment partout.
Et le schéma classique, la réflexion classique juridique jusqu'à présent consisterait plutôt à dire, ben écoutez, la responsabilité est ici clairement une responsabilité étatique qui n'a pas respecté sa signature internationale, j'allais dire, et ses engagements internationaux. Donc jusqu'à présent, les entreprises disent, ben écoutez, s'il y a un problème, attaquez l'État qui m'a donné l'autorisation, et alors que spécifiquement, l'introduction d'une infraction d'écocide permettrait d'aller au-delà et d'attaquer aussi le pollueur. C'est ça finalement la finalité très importante de cette incrimination d'écocide. Alors, j'aimerais bien rebondir sur un autre élément que vous avez évoqué, sauf si Grégory…
J'aurais bien aimé rebondir sur l'autre question. Et oui, parce qu'avec cette question et cette réponse, on est d'une certaine manière à la fois au cœur du sujet, et puis aussi, ça permet de justifier, peut-être de clarifier le titre de la discussion d'aujourd'hui via une reconnaissance juridique et sociale. Et pourquoi ce social, hein, qui renvoie aussi à nos représentations de qu'est-ce que c'est que la criminalité, la délinquance, qu'est-ce qu'on considère comme un acte délinquant ou pas, et puis comment on les hiérarchise, qu'est-ce qu'on trouve être un crime tout à fait impardonnable ou un péché véniel, etc. Bon. Et c'est un terme qui fait le trait d'union, même s'il n'est pas, disons, utilisé de la même manière par le droit et par la sociologie, mais c'est la question de la qualification, et tout est là. Qu'est-ce qu'on qualifie de crime, de délit, de délinquance environnementale, d'atteinte ou d'infraction? Je veux dire, déjà, rien que dans ce passage de l'atteinte à l'infraction, il y a un saut, en fait, hein, qualitatif qui se trouve, et la question centrale, elle est vraiment là-dedans. Alors, il se trouve que même si en France, il y a eu quand même un certain nombre de travaux juridiques importants autour de la question du droit de l'environnement en général et du droit pénal de l'environnement en particulier, on peut signaler ici qu'il y a un courant spécifique anglophone qui s'est inscrit dans le champ de la criminologie, puisque c'est dans le monde anglophone une discipline à part entière ou presque à part entière, mais qui en fait peut réunir des gens qui ont des formations ou des rattachements disciplinaires un peu différents, qu'on pourrait traduire par criminologie verte, hein, la green criminology, et qui pose cette question-là, qui pose la question de qu'est-ce qu'on considère dans une société donnée comme une infraction ou pas, ou une simple atteinte, tolérée, voire peut-être encouragée d'une certaine manière, parce qu'elle fait partie de l'exploitation ordinaire de la nature. Et son cadre d'interrogation est celui-là, c'est-à-dire non pas partir des textes de loi tels qu'ils sont, c'est-à-dire de la définition officielle de la criminalité ou de la délinquance ou de l'illégalité, et puis aller essayer de mesurer par exemple tel ou tel phénomène, la répartition des infractions par domaine, etc., mais plutôt de se demander dans un vaste ensemble d'atteintes, de dommages, de nuisances, etc., qu'est-ce qui juridiquement devient illégal, est rendu illégal, fait l'objet d'une incrimination, et qu'est-ce qui, au contraire, sont des dégradations ou des pollutions qui sont tolérées. Voilà. Alors, ce point-là, en fait, replie l'ensemble de la question en lui. Hein. Et donc, c'est pour ça que je le pose dès maintenant, parce qu'il est tout à fait central, avant même de déterminer quelle est la bonne qualification et d'utiliser les termes dont on vient de parler, il y a cette question-là qui est tout à fait centrale.
Alors, je comprends bien cette question, et je pense qu'elle est centrale aussi en droit. Mais d'un point de vue méthodologique, je ne l'aborderai pas véritablement de la même façon. Il me semble que la méthode classique du droit est de produire de manière générale, de manière abstraite, j'allais dire, le concept d'incrimination. Et c'est ensuite, lors du procès, au juge précisément, de procéder à cette interprétation, d'apprécier la gravité des faits, de descendre du concept à la réalité pour essayer de l'appliquer, pour voir si on est effectivement sur des critères de gravité, de conséquences globales suffisamment importants pour rentrer alors, en phase de condamnation ou pas. Et si on rentre en phase de condamnation, pour déterminer le quantum de la peine en tant que tel. Donc, je pense que dans le processus juridique, en tout cas dans le processus du procès, on est précisément dans ce que vous décrivez. mais ça implique préalablement, pour qu'il puisse même y avoir un débat juridique, que la qualification est existée et a été adoptée, en fait, et a été cristallisée dans la norme juridique. Enfin, si je peux me permettre, juste une réflexion par rapport à ce que vous dites.
Oui, c'est un niveau d'appréciation. Il y a encore, malheureusement, il y a des expressions anglophones qui sont difficiles à traduire telles quelles, mais elles sont parfois très parlantes. Il y en a une en anglais qui dit exactement comme l'a dit Marine tout à l'heure, le fait que c'est légal pour tout le monde, qui est awful. Hein. Il y a juste elle qui saute. Hein. Ah mince, vous avez loupé ma phrase. Je parlais de l'expression lawful. M'entendez-vous cette fois?
Là, c'est parfait. Allez-y.
Il y a un décalage, je crois. Je mentionnais une expression très parlante dans le monde anglophone qui est, dans un article en particulier, « lawful but awful ». On fait juste tomber un « l » pour dire cette idée de « c'est légal, mais c'est criminel ». La meilleure approximation que j'ai pu trouver en français, c'est « légal, mais létal ». Même si la connotation change un peu. Et c'est un point évidemment très très important parce qu'il y a, y compris parmi les atteintes à l'environnement les plus graves sur le plan à la fois d'ailleurs de l'intention et des conséquences, et parfois les deux, qui sont effectivement parfaitement légales.
Absolument. Alors j'aimerais bien donc évoquer un point maintenant que j'ai vu passer d'ailleurs dans le chat. Je pense que ça doit être, alors je n'ai pas vu vraiment l'auteur, mais je pense que le connaître. Oui, c'est Robert Kulp, que je salue au passage, qui nous évoque un point de droit anglo-saxon, de common law, sur la distinction entre the criminal law and the civil law. Et justement, c'est le point que je voulais aborder. Que ce soit vous, Marine, ou vous, Grégory, vous avez évoqué à un moment donné la question de, alors pour Marine, de l'absence de protection globale de la nature en droit. Et puis, pour vous, Grégory, la question de la reconnaissance d'une personnalité à la nature qui pourrait donc devenir finalement victime même du comportement. Mais il m'avait semblé tout de même, que je vais me faire un peu l'avocat du diable, que le droit français s'était pourvu d'un dispositif spécifique qui a totalement reconnu, en fait, et c'est révolutionnaire en droit français, hein, qui a complètement reconnu le préjudice écologique en 2016, après quelques arrêts, ou un arrêt en tout cas de 2012, de la Cour de cassation, dans le Code civil, en admettant que le préjudice écologique, c'est-à-dire le préjudice direct subi par la nature et non pas par un individu en particulier qui arrivera à administrer la preuve d'une causalité, d'un préjudice, bref, de manière assez classique, que le préjudice de la nature en tant que tel était tout à fait recevable, même si ce n'était pas un préjudice qui pouvait se confondre avec le préjudice démontré d'une seule personne, et qu'il était loisible à l'État, aux collectivités locales ou aux certaines associations agréées de défense de l'environnement d'intenter une action pour une réparation au profit de la nature, donc soit prononcée par le juge, d'abord en nature, si ce n'est pas possible, sous une forme indemnitaire. Et là, effectivement, c'est une rupture, j'allais dire, fondamentale en droit de la responsabilité, parce qu'on admet, à partir de 2016, en droit français, que la nature est susceptible de subir un préjudice, alors qu'elle n'est pas une personne juridique pour autant. Donc, c'est quand même une avancée assez considérable. J'aurais bien aimé que vous m'en disiez quelques mots. Et puis aussi, du coup, expliquer peut-être ce paradoxe qui fait que, si je ne m'abuse, ce dispositif a été, en fait, depuis 2016, très peu sollicité devant les juridictions, en tout cas à l'encontre des personnes privées. Il a été bien plus repris par les juridictions administratives pour engager la responsabilité de l'État, par exemple, on va parler de l'affaire du siècle, par exemple, où on vise très, très clairement, le tribunal administratif vise très clairement le préjudice écologique. Mais par contre, quand il s'agit de faire un procès à un pollueur privé, eh bien, et de lui demander une indemnisation, donc on n'est pas sur un terrain pénal, mais civil, on constate que les tribunaux ne sont pas du tout débordés par ce genre de recours. Alors, est-ce que vous auriez une explication? Est-ce que vous pouvez resituer un peu le contexte de tout ça?
Peut-être qu'il vaut mieux que Marine commence pour l'aspect juridique et je ferai un pas de côté.
Alors, pour l'aspect qui concerne la reconnaissance de droits propres à la nature, Il faut bien voir qu'effectivement, ça a été une première jurisprudentielle dans l'affaire Total suite au naufrage de l'Erika, où effectivement, devant les tribunaux, on a obtenu pour la première fois la reconnaissance d'un droit propre et non plus d'un droit dérivé par le biais des êtres humains. Il faut savoir que, mais globalement, effectivement, le droit français reste assez ce qu'on appelle anthropocentré, c'est-à-dire centré sur les comportements humains et pas les droits propres de la nature. Je m'explique. Par exemple, également dans le cadre des violences et des souffrances infligées aux animaux, en fait, ce qui est sanctionné, c'est le caractère violent de l'humain sur l'animal, mais on ne reconnaît pas à l'animal la qualité d'être de personne et donc de dépositaire de droits propres. Donc, il y a toujours cette relation dans notre droit qui, en fait, analyse tout par le biais de ce qui est interdit comme comportement humain et pas ce qui est propre aux autres, aux non-humains, ou aux autres que humains, comme droits fondamentaux. Et ça, c'est vraiment un travail que nous faisons avec Wild Legal aussi, c'est de questionner évidemment ces choses-là, puisque par exemple, par le biais d'un procès simulé que nous avons organisé en 2019, nous avons interrogé la reconnaissance des droits du fleuve Maroni en Guyane française, qui est un fleuve qui est largement impacté par les activités minières, aurifères, illégales. Et donc, nous avons demandé à nos étudiants de travailler sur ce sujet sous la forme d'un procès simulé pour mettre en avant que justement, dans notre droit aujourd'hui, nous pouvons faire évoluer les choses pour reconnaître des droits intrinsèques aux écosystèmes, notamment grâce à la reconnaissance de ce préjudice écologique, mais aussi de manière plus large, comme vraiment une reconnaissance intrinsèque au sein de notre société, dans le droit administratif et dans notre gouvernance plus globale. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui, je dirais, plus qu'un pas à sauter pour reconnaître des droits propres à des écosystèmes et leur conférer de cette manière-là une protection plus large. Aujourd'hui, c'est vrai que ce préjudice écologique, il est encore peu utilisé. On a eu des jurisprudences intéressantes, la jurisprudence des Calanques de Marseille dans le cadre de braconnage, où là, on a pour le coup une sanction très élevée, mais c'est très fluctuant. Par exemple, une des dernières jurisprudences que je connaisse, c'était très décevant dans le cadre d'une pollution commise par un orpailleur, donc par un industriel en Guyane, un chercheur d'or, qui avait déversé ses boues toxiques volontairement, puisqu'il avait en fait ouvert la trappe de la zone de stockage et déversé ses effluents directement dans un fleuve, tuant littéralement le fleuve sur toute cette partie contaminée, n'a été condamné qu'à 1 euro symbolique finalement de préjudice écologique. C'est comme si on disait on vous brûle votre maison et puis vous allez en justice, vous obtenez 1 euro pour la destruction de votre maison. Vous imaginez bien la frustration que ça pourrait vous occasionner. Bon, bah, c'est un peu pareil pour les associations écologistes évidemment qui se battent pour la reconnaissance de ces droits intrinsèques à la nature et qui évidemment ne peuvent pas se contenter de ce genre de décision. Donc oui, on est face à une jurisprudence qui est encore fluctuante et c'est notamment le fait que, dû au fait que les associations écologistes aujourd'hui, il leur faudrait des moyens bien supérieurs à ce qu'elles ont actuellement pour évaluer ces préjudices, c'est-à-dire que malheureusement, souvent, les associations écologistes ne sont pas bardées de scientifiques, d'experts, d'hydrologues pour les aider à analyser très concrètement l'impact subi. Ça devrait être de la compétence de l'État. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre société, c'est que ceux qui tiennent les murs, excusez-moi de le dire comme ça, mais malheureusement, souvent, c'est les associations écologistes qui sont en première ligne pour dénoncer, pour poursuivre ces exactions contre la nature. Et aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité profonde à revoir ce système, à renforcer les moyens de l'État, parce que c'est l'État aujourd'hui qui doit être le garant de l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est aussi la protection de notre territoire et donc de la nature.
D'accord, alors, on comprend bien.
Je reprends alors en faisant un petit pas de côté, un double petit pas de côté. Si, je dirais que si jamais on essaye de saisir cette question-là et de repartir du préjudice d'un point de vue, disons, sociologique, il y a tout un tas de manières de le faire. Et si j'en conserve deux, on pourrait dire qu'il y a du côté de la sociologie du droit et de la sociologie des médias. Du côté de la sociologie du droit, je dirais que le fait que malgré son inscription et sa reconnaissance juridique, ça n'est pas beaucoup servi, est peu étonnant et attendu, au moins pour deux raisons. La première, c'est que le droit n'a pas seulement une fonction instrumentale, mais il a aussi une fonction expressive. Donc, il s'agit à un moment d'annoncer Hein, c'est une partie de son pouvoir, de sa fonction symbolique. Hein, il est là pour envoyer un message, disons. Et puis, la deuxième raison, c'est que le droit est une... est moins une contrainte qu'une ressource, et donc c'est une ressource qu'on peut mettre à profit ou non, c'est un point d'appui sur lequel précisément on peut s'appuyer ou pas, et donc là, bah, ça donne un, disons, un bon exemple d'écart entre les normes et l'application, mais cet écart, il est sociologiquement normal, quoi, hein, donc il était attendu. Mais on peut essayer d'attraper les choses d'une autre manière, et qui serait plutôt, et encore une fois en lien avec l'idée d'une reconnaissance sociale de qu'est-ce que ça pourrait être la criminalité environnementale, disons, de la carrière médiatique ou de la carrière publique, encore plus largement, de ces termes-là. Et c'est intéressant que vous ayez parlé du préjudice, parce que c'est très schématique, mais en gros, on pourrait dire que dans la première moitié des années 2010, la question de la délinquance ou de la criminalité environnementale a émergé via la question du préjudice écologique, effectivement, et les décisions dont vous avez parlé, mais aussi les rapports qui ont précédé, au moins en rapport en 2013. Et puis, on a petit à petit, j'allais dire basculé, mais c'est un peu trop soudain, on a avancé progressivement vers le fait que c'est l'écocide, le thème de l'écocide, qui a fait, disons, qui a contribué à mettre sur le tapis la question de la criminalité environnementale. Et en fait, cette expression que je manipule depuis tout à l'heure, criminalité environnementale, délinquance environnementale, ou même chose avec écologique, elle est en fait assez peu utilisée. Quand on fait une base de données, maintenant on peut le faire grâce à des bases de données de presse, quand on fait une base de données sur l'usage de ces notions dans les médias français, on s'aperçoit qu'en fait, criminalité environnementale, délinquance environnementale, ça sort très très peu, et encore plus quand on garde que les titres ou les chapeaux des articles. Donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, préjudice, écocide, tout ça, ça a à la fois des sens objectifs et puis des résonances, disons, un peu plus larges, qui sont très différentes. J'en donne un exemple précis qui renvoie à ça. Qu'est-ce qu'une société considère comme étant de la criminalité environnementale, juridiquement donc, mais aussi socialement, c'est-à-dire nous-mêmes, à quoi on pense? Bon, il y a une affaire de très très grande ampleur et qui, à ma connaissance, mais je veux bien votre avis, n'est très peu, au mieux très peu, voire pas du tout cadré dans ces termes, c'est la question de ce qu'on appelle improprement le Dieselgate, ce qui ne veut à peu près rien dire, ou dites l'affaire Volkswagen, enfin l'affaire des pots catalytiques transformés pour enfreindre les seuils d'émissions légalement acceptés. Voilà une affaire massive dans laquelle tous les critères qu'on a retenus tout à l'heure sont inclus, à commencer par celui de l'intention, puisque là, c'est une fraude parfaite, faite en parfaite connaissance de cause, qui touche un nombre de véhicules ahurissant, je crois que c'est 11 millions à peu près au dernier comptage, etc. Est-ce que ça, médiatiquement, s'est présenté comme de la délinquance environnementale ou de la criminalité environnementale, et encore plus comme de l'écocide? Il ne me semble pas. Je n'ai pas encore fait de recherche systématique, j'aimerais bien le faire, mais éventuellement de la criminalité économique et financière, éventuellement de la délinquance d'affaires, de la délinquance en col blanc, etc. Et encore, je ne pense même pas que ce soit le cadrage dominant. Et donc, ça en dit long. C'est-à-dire, quand une affaire remplit apparemment tous les critères justement de la grande affaire de crime environnemental, mais qu'elle n'est pas vraiment désignée comme telle, ou au mieux à la marge, c'est bien qu'on n'a pas encore pris la mesure, disons, ou qu'en tout cas, les habitudes de qualification ne sont pas encore installées.
Oui, j'abonde dans votre sens. En réalité, comment est traitée cette affaire essentiellement comme une tromperie du consommateur, en réalité. Essentiellement comme un problème de droit de la consommation, un problème de produit, mais pas effectivement dans une dimension de criminalité environnementale. Hein, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, j'aimerais bien... continuer un petit peu et après on va tout doucement migrer sur les quelques questions qui nous ont été posées, puis on débattra assez librement. Et j'aimerais bien un peu continuer sur ces freins proprement procéduraux ou ces freins en termes probatoires, par exemple, qui vont limiter la capacité d'obtenir des compensations, des indemnisations. Marine nous a donné un exemple très très net avec l'évaluation du préjudice en nous disant que les structures associatives, par manquer de moyens en termes d'expertise et donc manquer de force pour pouvoir administrer la preuve concrètement de l'ampleur du préjudice. Et on est ici vraiment dans une logique de responsabilité, hein, c'est-à-dire quand une faute a été commise et qu'on en demande l'indemnisation. Mais est-ce que finalement, cette méthode de la responsabilité n'est pas un peu, comment dire, n'est pas un peu inemployable en matière de préjudice écologique? Et j'en veux pour preuve une récente affaire dont vous avez peut-être entendu parler, enfin, très certainement, et l'affaire de l'oléoduc que la société Total souhaite développer en Ouganda. Et ici, vous avez plusieurs associations qui ont effectivement demandé des comptes sur ce projet à Total, non pas à travers un mécanisme de responsabilité écologique classique, mais à travers le mécanisme qui s'appelle le plan de vigilance, un cadre plus global du devoir de vigilance, tel qu'il a été mis en œuvre en France en 2017. La France était d'ailleurs assez pionnière dans ce domaine. Ce plan de vigilance, qu'est-ce que c'est? Ça consiste, pour faire très simple, des très grandes sociétés internationales, de s'enquérir du respect des droits humains et du respect de l'environnement lié à l'activité de ces filiales ou sous-traitants dans le monde entier, de faire un rapport là-dessus et surtout d'élaborer un plan qui va permettre d'anticiper les risques et d'anticiper la réalisation des risques et de décrire comment on essaie de limiter au maximum la possibilité que ces risques se réalisent. Et ce dispositif est accompagné d'un régime de responsabilité pas tellement facile donc à manipuler, parce que ici ce sont les victimes individuelles, donc notamment par exemple les autochtones, qui doivent porter l'affaire et un recours devant les juridictions françaises. Bon, c'est très compliqué, etc. Et ici, qu'est-ce qu'on constate avec cette affaire Total? C'est que les ONG ont agi en amont même de la réalisation du risque, c'est-à-dire en amont même des circonstances de pollution, de destruction d'écosystèmes, d'atteinte aux populations locales, en estimant que la société n'avait pas mis en œuvre, en tout cas n'avait pas annoncé dans son plan de vigilance de mesures suffisantes, convaincantes, de nature à pouvoir concrètement anticiper les risques environnementaux et les risques pour les populations autochtones, donc en Ouganda. Et contentieux a été porté, me semble-t-il, devant le tribunal. Au départ, ça devait être porté devant le tribunal judiciaire. Finalement, le tribunal, les juridictions commerciales se sont déclarées compétentes, mais quoi qu'il en soit, ce contentieux maintenant relève des juridictions civiles, mais il intervient en amont même de la réalisation d'un risque, en amont même de la réalisation donc d'une pollution, par exemple. Et donc, c'est ma question, est-ce que ce n'est pas une méthode pour agir finalement bien plus efficace, c'est-à-dire sur ce terrain préventif, que plutôt d'intervenir ex post une fois que le risque a été réalisé, parce qu'on tomberait immanquablement dans toutes les chausse-trappes et les travers du droit de la responsabilité civile, j'allais dire, classique et de ses mécanismes classiques. Voilà un peu ma question. J'espère que vous l'avez compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça, une position?
Alors, si je peux me permettre, en fait, les deux ne sont pas du tout séparés l'un de l'autre. Au contraire, d'ailleurs, notre proposition initiale, formulée auprès de la Convention citoyenne pour le climat, comprenait l'introduction du crime d'écocide également au sein du Code de commerce, au sein, du coup, de l'obligation de ce plan de responsabilité des entreprises, justement parce que, dans le Code de commerce, nous avions suggéré l'introduction d'un article L220-102-6, donc pour faire suite justement à ce devoir de vigilance, pour introduire le fait que l'absence de mesures adéquates et raisonnables d'identification et de prévention justement de cette responsabilité qui aurait conduit du coup à la réalisation d'un écocide pourrait être punie. On avait proposé à l'époque donc 5 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, et en cas de chiffre d'affaires conséquent, une amende indexée sur 10% du chiffre d'affaires annuel mondial total, ce qui peut être très intéressant quand vous avez évidemment des entreprises avec un chiffre d'affaires qui se chiffre en milliards. Donc, c'était une proposition qui était absolument complémentaire de ce que vous venez de dire, puisque, en fait, aujourd'hui, le problème majeur avec ce devoir de vigilance, c'est qu'il n'y a pas de sanctions véritablement applicables, justement, quand votre industriel ne respecte pas ses engagements. C'est-à-dire que Total peut dire, oh, mais non, mais j'ai bien prévu mes les engagements climatiques, alors qu'il a une stratégie climat qui nous emmène directement vers plus 4, plus 5 degrés. Donc, une stratégie de développement, pardon, avec des prévisionnels d'exploitation qui est complètement contraire aux engagements de l'accord de Paris. Aujourd'hui, ce type de comportement asociaux, on pourrait même dire asociaux, parce qu'ils compromettent l'existence de l'humanité sur notre planète, ce type de comportement asociaux, anti-écologique, climato-négligent, climato-sceptique, presque on se demande si Total croit au réchauffement climatique, vu leurs projections économiques. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir des sanctions très claires, justement, pour pouvoir faire appliquer ce devoir de vigilance, il faut que ne pas le respecter puisse être suffisamment dissuasif. Et ça, c'était une mesure très forte que nous avions proposée, encore une fois, que le ministre de la Justice et la ministre de l'Écologie ont refusé sans raison valable à mes yeux, puisqu'il n'y a aucune raison de s'opposer à renforcer cet outil qui, sinon, reste malheureusement trop souvent une coquille vide.
Alors, en tout cas, actuellement, le procès est en cours et c'est vrai que les juridictions ne peuvent pas prononcer de sanctions spécifiques pour une raison d'insuffisance du plan de vigilance, mais peuvent prendre des mesures d'injonction, ceci étant, pour demander une révision et l'instauration de mesures plus crédibles. Après, se posent également les contrôles dans la société et dans l'entreprise. Est-ce que ça va être effectivement réalisé? Est-ce que ça va être effectivement efficace? Là, je suis d'accord, on reste sur des choses vraiment très, très difficiles, très, très difficiles à contrôler. Puisque vous avez quelque chose peut-être sur ce point-là, Grégory, à dire?
Oui, je veux bien. Il me semble que cette question-là et ce débat-là pointent vers quelque chose qu'on pourrait appeler, c'est un peu ronflant, mais c'est peut-être le terme le plus exact, les apories d'une stratégie préventive. C'est-à-dire que si on pose les choses en ces termes, en se disant, mais est-ce que l'approche répressive n'arrive pas trop tard? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des mécanismes préventifs pour pouvoir agir en amont ou désamorcer en amont? On se place dans un cas de figure dans lequel la situation normale est celle d'une non-atteinte et dans laquelle, de temps en temps, ponctuellement, surgissent des atteintes à l'environnement ou des infractions aux droits de l'environnement qu'on pourrait essayer d'anticiper. Mais en réalité, les atteintes à l'environnement sont l'état permanent de la production. Donc, on ne peut pas anticiper des moments de surgissement. On peut éventuellement anticiper des moments de surgissement parce que ce sont des pics ou parce que ce sont des désastres ou des catastrophes isolées, typiquement la marée noire. Mmh. Mais il y a aussi des désastres environnementaux de portée absolument équivalente, si ce n'est pire, qui, du fait même que, comme on l'a dit avant, sont parfaitement légaux. Je vais prendre un exemple typique à l'échelle mondiale qui est l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta, dont les descriptions, enfin, ça va, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais c'est lunaire au sens propre du terme, puisque tout est absolument saccagé, on a l'impression d'être dans une zone lunaire. Et ça, il n'y a pas de mécanisme préventif qui vaille, puisque tant qu'on n'aura pas décidé, et c'est une décision qu'on ne va pas prendre demain, vous vous rendez compte du travail social et politique que ça demande d'exiger une telle exploitation s'arrête, y compris parce qu'elle est déclarée illégale, ça continue. Hein. Et pour le coup, ça a un impact qui est tout à fait énorme. Mais même sans aller aussi loin, et pour reprendre encore un cas très très proche de chez nous, parfaitement français, et qui mêle, disons, atteinte à l'environnement et ce qu'on appelle délinquance en col blanc, on a révélé récemment les activités d'une multinationale, d'une entreprise du lait, par exemple, en France, sachant qu'on avait déjà eu des enquêtes sur des logiques de cartélisation dans l'industrie du lait, etc. Bon, qui, pareil, au mépris de tous les règlements et moyennant en plus de pseudo-vérifications, envoyait dans les cours d'eau des déchets toxiques. Mais ça, c'est la règle ordinaire de la production industrielle en réalité. Et encore, je dis industrielle, Mais n'oublions pas que même nous, en discutant par Internet, on fait fonctionner des serveurs, etc., qui sont extrêmement polluants. Ça, c'est un point maintenant qui peut-être a encore pas tout à fait pénétré, mais pourtant, il commence à être bien documenté. Hein, le fait que l'économie dite immatérielle ou que, disons, l'économie dite virtuelle repose sur une infrastructure des plus matérielles et qui est en plus extrêmement polluante. Donc, ça complique tout ça pour dire que ça aussi, ça complique les choses. Puisque en fait des atteintes à l'environnement tout à fait massives, parfois à cheval entre la légalité et l'illégalité, sont en fait notre lot quotidien. Hein, quand je dis à cheval entre la légalité et l'illégalité, c'est par exemple tout ce qui est la pollution atmosphérique. Bon, ben, il y a un seuil qui est défini à partir duquel ça devient illégal. Mais bon, bah, ce seuil, il est contingent, il est soumis à des rapports de force, il peut évoluer, il est arbitraire au sens où juste en dessous, c'est bon, et puis juste au-dessus, ça n'est plus bon, alors qu'en fait, numériquement, la différence est très faible. Voilà, et c'est tout ça, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Pardon.
Je suis vraiment tout à fait réceptif à cet argument, et d'ailleurs, on pourrait même abonder en ce sens, en disant que l'anticipation, c'est bien pour les très, très gros risques identifiables comme des marées noires, etc. Mais en réalité, la pollution majeure et la destruction majeure de la planète, c'est un système et c'est quelque chose qui en permanence se réalise au gré de différentes activités. Et donc, l'anticiper, bah, ça n'a pas beaucoup de sens vu que c'est quelque chose qui intervient dans le réel. Et l'anticiper, ça accule finalement bien souvent plus à du washing qu'autre chose. Moi, qui suis personnellement un observateur des déclarations de performance extra-financière des sociétés depuis à peu près 20 ans, hein, commencé par le rapport sur les risques sociaux, environnementaux, etc., c'est vrai qu'on s'est toujours interrogé pour savoir si les sociétés, lorsqu'elles déclaraient leurs impacts socio-environnementaux et la façon dont elles les traitaient, etc., ne se livraient pas beaucoup plus à un exercice finalement un peu marketing pour essayer de mettre en avant leurs vertus. Pas forcément corrélé dans la réalité, mais en tout cas pour dire à quel point elle était soucieuse de la cause environnementale, alors que pour autant, on ne voyait pas concrètement de changement systémique sur la façon dont le capitalisme finalement polluait cette planète. Mais de ce point de vue-là, justement, est-ce que alors il ne faut pas être assez, comment dire, je ne veux pas dire admiratif, mais en tout cas séduit par la jurisprudence qu'a développée récemment le Conseil constitutionnel, hein, c'est une décision de janvier 2020, vous avez peut-être entendu parler, où le Conseil constitutionnel s'attaque directement à la liberté d'entreprendre et au concept de la liberté d'entreprendre qui est une valeur constitutionnelle également, juridiquement à valeur constitutionnelle. Et je vais vous lire juste les quelques lignes de cette décision. Le Conseil constitutionnel, donc dans sa décision QPC 2019-823, nous dit: il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. Le législateur est donc fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger. Et très concrètement, donc, dans cette mesure, le Conseil constitutionnel estime conforme à la Constitution la loi qui interdit aux producteurs de pesticides français d'exporter vers des pays tiers des produits contenant des substances prohibées par l'Union européenne, mais autorisées dans les pays tiers. Donc, l'entreprise française ne peut plus exporter des produits autorisés sur ses marchés d'export, mais interdits sur le territoire de l'Union européenne. C'est une décision qui a fait grand bruit, parce qu'on y a vu vraiment la volonté du juge constitutionnel d'attaquer la liberté d'entreprendre, et donc l'essence du capitalisme, quand on soit clair. Alors, j'aurais voulu votre réaction là-dessus. Est-ce que c'est une bonne méthode? Comment vous interprétez cette décision?
Personnellement, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une attaque vis-à-vis de la liberté d'entreprendre. Ça, je pense que c'est un dogme largement propagé par les entreprises pour se victimiser. Si vous voulez mon avis, ça fait depuis toujours qu'on a essayé de trouver un équilibre entre les libertés individuelles et la protection de l'intérêt général. Ça fait partie de ce qui fait qu'on fait une société ensemble et qu'on n'est pas juste une masse d'individus grouillantes tentant de survivre les uns avec les autres. Donc, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a des milliers de dispositions qui limitent la liberté d'entreprendre, justement, bah, toutes les arrêtés pollution, toutes les lois qui concernent justement les permis de construire, tout ça, ce sont des limites à l'intérêt des particuliers, donc notamment l'intérêt d'entreprendre, pour le motif de la conservation de nos écosystèmes et de l'intérêt général. C'est une manière de vivre ensemble. C'est juste que ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'on a effectivement cet ancien monde avec ces personnes qui veulent en plus exporter des produits extrêmement polluants dans des pays dans lesquels c'est autorisé, alors que chez nous, ça ne l'est déjà plus depuis un paquet de temps, parce que justement, on a des principes environnementaux, des exigences environnementales qui font qu'on évite ce genre d'exploitation de production. Alors, c'était une certaine forme de libéralisme poussé à outrance, c'est-à-dire qu'on aurait fabriqué en France des produits qu'on ne voulait même pas utiliser chez nous et qu'on aurait pu exporter à l'étranger. Bon, heureusement, j'ai envie de dire que dans cette situation, le juge, avec tout le bon sens qui était, a dit non, bon là, ça va trop loin, et a rappelé, en fait, a simplement rappelé que c'est le rôle du législateur de trouver un équilibre. Donc, il n'y a en fait rien de phénoménal en soi dans cette jurisprudence, si ce n'est une chose qui moi, m'a fait sourire, c'était que l'article utilisé par le juge dans cette décision, c'est un article en fait issu du préambule de la Charte de l'environnement, qui s'appuie sur le fait de dire que justement la protection de l'environnement, c'est la protection de notre patrimoine humain. Et ça, c'est très intéressant, parce que pour moi, qui travaille sur les droits de la nature, c'est totalement anthropocentré. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se pose la question de savoir si on protège la nature uniquement parce que c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité, alors qu'en fait, ce n'est pas le patrimoine de l'humanité. Déjà, ce n'est pas un patrimoine, parce que ce qui suppose patrimoine veut dire bien, et donc accaparement au bénéfice de quelques-uns, alors que justement, le terme de patrimoine, pour moi, est beaucoup trop restreint. On parle en fait d'un commun planétaire, de ce que nous partageons tous, de ce que nous recevons en usage, peut-être d'un héritage non écrit des générations qui nous ont précédés. Mais en tout cas, à mes yeux, ce n'est pas un patrimoine. Et en plus de ça, ce n'est pas le patrimoine de l'humanité, quand bien même ce serait un patrimoine, parce que c'est notre patrimoine aux espèces animales, humaines et non humaines, et aux espèces végétales, évidemment, et également qui partagent, toutes les espèces qui partagent cette planète avec nous. Donc, en aucun cas, on ne peut s'approprier et en faire notre patrimoine à nous uniquement, alors que toutes les espèces vivantes de notre planète dépendent de la protection de ce commun planétaire. Et donc, il faut vraiment voir que cette décision, autant elle est très intéressante, autant elle est totalement anthropocentrée, et nous, justement, on remet en question cette vision du droit. Et on essaie d'élargir les horizons pour enfin trouver une nouvelle façon d'écrire le droit qui ne soit pas justement focalisé sur notre petite personne, mais qui voit beaucoup plus loin que les personnes humaines, pour voir justement toutes ces personnes non humaines qui ont besoin d'un droit qui les inclut aussi dans cette gouvernance du vivant.
Alors, complètement d'accord sur le fait que le droit est un exercice qui vise à chercher un équilibre de manière tout à fait traditionnelle et classique, et que de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est quand même nouveau, c'est que c'est le Conseil constitutionnel qui le dit là, en mettant en opposition ces deux valeurs-là, la valeur environnementale et la valeur entrepreneuriale. Et voilà, ça au moins, c'était nouveau. Mais par contre, sur la recherche d'un équilibre, je suis complètement d'accord avec vous pour faire société. Bon, vous l'avez de toute façon suffisamment bien dit. Grégory, allez-y, réagissez sur ces questions-là.
Oui, alors, pour faire suite et en sortant du cadre français, ce débat-là, il rejoue d'une certaine manière, avec évidemment des spécificités nationales, institutionnelles, etc., le débat qui s'est joué aux États-Unis au début des années 90, en fait, hein, au moment où il y a un essor, avec une sorte de un peu d'effet tardif par rapport à l'édiction de la législation, disons, environnementale moderne, contemporaine aux États-Unis dans les années 70. Et en fait, au début des années 90, au moment où le contentieux monte et où commence même à y avoir quelques peines de prison, etc., il y a ce débat-là qui sort exactement de la même façon. Voilà, c'est une question assez classique de compatibilité et d'incompatibilité entre droits concurrents et rivaux, et donc des rapports de force qui se jouent entre les deux. Une des critiques classiques pour essayer d'expliquer, disons, le manque de reconnaissance de la question environnementale du point de vue de la criminalité, c'est la prépondérance du droit des affaires ou du droit commercial sur le droit environnemental, par exemple. Et voilà. Mais vous avez mentionné spécifiquement la question des pesticides et de l'exportation des pesticides, et je voudrais rebondir là-dessus parce que ça permet de mettre le doigt sur un point très important et qui est méconnu, et qui est que disons, notre manière ou la manière officielle et donc, par conséquent, d'une certaine manière, la manière ordinaire de se poser la question de la criminalité environnementale découle beaucoup, et c'est un point qu'on sous-estime, de sa mise en forme par les institutions internationales, par les grandes institutions internationales, et en particulier par la façon dont un accord entre Interpol et le Programme des Nations Unies pour l'environnement a mis en forme cette question. Au milieu des années, au courant des années 2010, mais particulièrement au milieu des années 2010. Et je pars du point des pesticides pour dire ceci. Même si depuis le tir a été légèrement rectifié, ce qui est très intéressant dans deux rapports qui ont été produits vraiment au milieu des années 2010 sur la criminalité environnementale et qui prétendent faire une sorte de panorama général de la question, c'est qu'ils se cantonnent presque exclusivement aux pays du Sud global. Quand on regarde la criminalité environnementale dans ces rapports, ça se passe en Asie, en Afrique, c'est du trafic de pangolins, des braconniers qui s'emparent de l'ivoire des éléphants, etc. Toutes choses vraies, mais qui méconnaissent totalement les rapports de force nord-sud et les flux commerciaux entre les deux. Et typiquement, dans ces rapports sur donc qui font une sorte de panorama général, on n'entend pas du tout parler de l'exportation de pesticides et autres produits toxiques, d'ailleurs interdits, mettons en Europe pour se limiter à ça, et qui sont déversés, je choisis vraiment le mot le plus poli que je puisse trouver, dans les pays pauvres. Et ça encore, c'est le lot courant, je veux dire, c'est vraiment du business as usual. Et ça, évidemment, c'est vraiment central parce que disons, la conception un peu ordinaire qui tend à circuler de la criminalité environnementale, y compris dans les médias français, et évidemment malgré des exceptions, etc., mais tend à se caler, disons, outre mesure sur sa mise en forme par les grandes institutions internationales. Et ça crée beaucoup de zones d'ombre, puisque ça se focalise sur les pays du Sud, je viens de le dire, et ça se focalise aussi sur les acteurs illégitimes. Depuis tout à l'heure, avec Marie, nous avons eu le réflexe, j'allais dire presque, de désigner aussi comme fautifs possibles des entreprises, par exemple. Mais quand on lit ces rapports, ce n'est pas du tout le cas. Les entreprises, elles sont victimes de la criminalité environnementale, mais la criminalité environnementale est présentée comme étant l'apanage des mafias, des réseaux criminels, etc. Alors, qu'il y ait des mafias et des réseaux criminels dans le domaine environnemental, tout le monde en est bien d'accord, y compris d'ailleurs en Europe, les fameuses éco-mafias, etc. Mais ça n'est qu'une partie de ce qui rentre sous ce terme, et y compris d'un point de vue légaliste, c'est-à-dire y compris si on part des normes légales telles qu'elles sont actuellement en vigueur. Voilà.
Alors, on a beaucoup parlé, j'ai sans doute parlé trop moi-même, mais c'est vraiment absolument passionnant, mais il est temps quand même de donner un peu la parole à notre public à travers différentes questions qu'il pourrait nous poser. Alors on a déjà vu quelques petites choses assez sur le tchat, et notamment à destination de Marine, on avait des questions qui concernaient votre expérience spécifique guyanaise, donc, et notamment la question, la question de savoir si vous pouviez faire un rapide point sur le projet de Montagne d'Or en Guyane, mais aussi sur des plus petits projets qui sont peut-être moins médiatisés ou qui l'auraient remplacé, à savoir quelle est la critique ou l'analyse de votre part sur ces autorisations qui seraient accordées en matière donc orifère. On en a déjà un peu parlé, hein, mais est-ce qu'on pourrait parler de droit autorisé à polluer spécifiquement donc pour la question guyanaise?
Alors oui, la question de Montagne d'Or, elle est intéressante. Disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu de statu quo. On attend à quelle sauce on va être mangé, puisque malgré les annonces du gouvernement disant que le projet a été définitivement abandonné, très concrètement, la compagnie minière a réussi à forcer la main au gouvernement, malgré tout, pour obtenir en fait la prolongation de sa concession minière. Donc la concession minière, c'est le titre en fait sur lequel ensuite l'entreprise peut se reposer pour demander une autorisation d'ouverture de travaux miniers. Et cela parce qu'en fait, il y a un double jeu très clair du gouvernement. Dans les médias, on dit le projet est abandonné, mais de facto, dans les administrations, ça coince quand même largement plus, à tel point que justement, alors que la compagnie Montagne d'Or a donc poursuivi en justice l'État français pour obtenir la prolongation de sa concession minière parce que le gouvernement refusait de prendre une vraie décision et de refuser cette prolongation. L'État a été attaqué dans les tribunaux et a perdu parce qu'il a joué la politique de la chaise vide. Il n'est pas venu, il n'a même pas envoyé d'avocat pour se représenter, il ne s'est pas défendu dans ce dossier. Et donc forcément, le juge, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le procureur dans ses conclusions, a dit « mais face à l'absence d'argument, face à l'absence de contestation de la part du gouvernement, je ne peux que prononcer la prolongation sous 6 mois de la concession minière ». Et là, évidemment, Barbara Pompilis est choquée dans les médias, a dit qu'évidemment, la France allait attaquer cette décision. Là, là. Bon, hein, depuis des mois, on nous balade comme ça à nous dire qu'évidemment, l'État a pris une décision très ferme dans ce dossier, mais en fait, juridiquement, hein, si on parle juridiquement, il n'en est rien et nous n'avons aucune certitude sur le fait que demain, le projet Montagne d'Or ne puisse pas revoir le jour, c'est-à-dire un serpent de mer qui viendrait dans quelques années à nouveau nous taquiner parce que, évidemment, en fait, ce qu'on attend très concrètement, c'est que la pression populaire qui a été exercée pendant toutes ces dernières années retombe, que les collectifs tels que le collectif Hors de Question opposé à la mine d'or, finalement, ça s'agisse et que toute cette mobilisation citoyenne qui était le poil à gratter hein, ces derniers mois du gouvernement, s'estompe. Donc, évidemment, on y voit finalement une manœuvre dilatoire hein, de la part du gouvernement. On attend et puis on verra bien ce qui se passe. En attendant, évidemment, le collectif Hors de Question, il est extrêmement mobilisé pour obtenir une bonne fois pour toutes l'abandon de l'industrie minière en Guyane et pas uniquement du projet Montagne d'Or, puisque c'est en fait cette forme d'industrialisation, d'exploitation de la terre à outrance qui est contestable dans notre situation parce qu'en fait, il faut le savoir, l'industrie minière, elle n'est pas compatible, quelle que soit la couleur verte qu'on voudrait repeindre par-dessus les bulldozers, ça n'a aucun sens vis-à-vis des engagements climatiques. On ne peut pas respecter nos engagements climatique et couper la forêt amazonienne, brûler du fioul pour aller creuser des trous et exploiter l'or de manière industrielle avec les méthodes que l'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, il y a une critique plus profonde que juste le projet Montagne d'Or, une critique qui s'étend évidemment à tous les projets un peu justement les pâles copies de Montagne d'Or qui sont en train de pointer leur nez, justement le projet Espérance qui est situé à quelques dizaines de kilomètres à peine et qui est vraiment le frère jumeau du projet Montagne d'Or, mais aussi tout un tas d'autres exploitations, puisqu'il faut savoir que même une mine de taille moindre que le projet Montagne d'Or, elle a un impact, on parle pour une mine de taille moyenne, de plusieurs centaines de milliers de voitures par rapport à leur bilan carbone annuel. Donc, on n'est pas du tout sur une échelle justement cohérente vis-à-vis de nos engagements, ni climatiques, ni en termes de biodiversité. Et il faut savoir quand même que la France, cette année, accueille le Congrès mondial de la biodiversité. Donc, il serait temps de se mettre en cohérence justement avec nos engagements. Et donc, sur le terrain, en fait, ce qui nous inquiète, c'est qu'avec la proposition de loi de réforme du code minier introduit dans la loi climat, on a un souci, parce que très concrètement, ce qu'on pense, nous, c'est que ça va servir à relancer l'industrie minière de petite taille, c'est-à-dire les plus petites implantations. Il y a déjà des dizaines de permis miniers qui ont été délivrés, potentiellement d'autres qui vont arriver, puisqu'il faut savoir qu'en fait, avec tous ces débats sur la réforme du code minier, il y avait plus ou moins disons que les attributions de nouveaux permis avaient été plus ou moins suspendues dans cette attente, et là on s'attend à voir en fait une relance du nombre de permis miniers attribués, et donc pour nous évidemment ce n'est pas du tout un signal engageant, d'autant plus que les propositions qui sont faites par le gouvernement en fait elles ne veulent rien dire à mes yeux, c'est vraiment encore une fois c'est du blabla comme pourrait dire Greta Thunberg, parce que on introduit ces exigences environnementales qui peuvent être soulevées par les préfets contre des projets miniers, sauf que dans les faits, les préfets ils ne sont jamais justement contre les projets miniers. Alors, si on leur laisse la main libre pour encore une fois devoir décider si oui ou non un projet est acceptable, finalement, c'est purement politique, puisqu'il faut savoir que les préfets, finalement, c'est la main de l'État, c'est le représentant politique de l'État dans les territoires. Et donc, si c'est eux qui décident si un projet est acceptable ou non, franchement, on n'a pas fini de se mobiliser et de marcher dans la rue. C'est vraiment un problématique, c'est vraiment problématique parce qu'il n'y a aucune exigence concrète qui a été formulée par ce gouvernement. Et quand j'ai posé la question au rapporteur justement du code minier dans le cadre de la loi climat, m'a dit mais non mais en fait on ne veut pas interdire l'industrie minière en Guyane. Bon, bah alors, pourquoi est-ce qu'on est là, en fait? De quoi est-ce qu'on parle? Et donc, c'est terrible parce qu'on avait demandé l'interdiction du cyanure. Ils nous l'ont refusé parce qu'ils nous ont dit, mais ça voudrait signifier la fin de l'industrie minière. Je dis, bah oui, c'est exactement pour ça qu'on le demande, d'ailleurs. Et donc, on est face à un gouvernement qui fait des grandes annonces. On va introduire les exigences environnementales dans le code minier. Bon, en fait, derrière, c'est vraiment les blabla Macron en permanence. Et ça, c'est terrible pour la confiance qu'on peut en avoir envers nos politiques.
J'allais vous poser justement cette question des substances utilisées, notamment par les petites exploitations minières. Je pense qu'on n'a pas encore dépassé dans ce secteur industriel l'utilisation de métaux lourds comme le mercure ou comme
le mercure est interdit depuis quelques années déjà par la convention de Minamata, mais utilisé massivement par les orpailleurs clandestins, donc plus de centaines de tonnes qui sont déversées chaque année dans les écosystèmes parce que justement on est incapable de contrôler l'immigration illégale d'orpailleurs clandestins. Et puis, pour le coup, des tonnes et des tonnes de cyanure qui sont utilisées pour exploiter et pour amalgamer en fait, l'or et qui est une technique extrêmement dangereuse qui peut avoir des répercussions énormes parce qu'il s'agit d'un poison, en fait, hein, pour l'environnement. Et donc, plusieurs États européens l'ont déjà interdit, mais la France tient bon pour continuer, en fait, à favoriser ces exploitants miniers. Encore une fois, on fait passer la protection des intérêts des exploitants miniers alors qu'il y a des alternatives qui sont certes moins rentables, mais beaucoup moins dangereuses. Et on fait passer, du coup, les intérêts de ces exploitants miniers avant la protection de l'environnement et des populations qui seraient les premières impactées, évidemment, par ce genre de catastrophe écologique.
Alors, il y avait une autre question dans le prolongement. Grégory, peut-être une réflexion sur la question guyanaise ou je ne sais pas sur...
Non, c'était pour compléter et prendre un point de vue totalement différent sur les pratiques judiciaires en général, parce que ça nous permet d'avoir deux points d'entrée, un sur une affaire très très précise, comme on l'a fait déjà un petit peu, et puis un plus général. Et ensuite, je voudrais rebondir éventuellement sur une question là, qui est sur l'affaire du siècle. Merci d'ailleurs à celles et ceux là, qui interviennent. Il y a peut-être un point qu'on peut glisser là, qui n'est pas en rapport direct du tout avec l'affaire guyanaise, hein, mais justement c'est pour compléter, sur la, disons, la pénalisation dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. On pourrait avoir l'impression qu'en France, j'en reste à la France, disons que la reconnaissance juridique de la criminalité environnementale se fait de manière lente mais sûre, hein, et que, disons, depuis le début du siècle, ça progresse. Trop timidement, trop lentement, etc. Mais enfin, ça progresse. Mais en fait, pas du tout. Les statistiques de condamnation pour des infractions à la législation sur l'environnement montrent que, au mieux, éventuellement, ça stagne grosso modo et c'est tendance-ci, voire ça baisse. On a l'avantage d'avoir quelques statistiques dans les années 90 et donc d'avoir un recul qui n'est pas trop, trop mauvais. Et on l'a parfois oublié, mais en fait, quand avant le gouvernement précédent et même avant le gouvernement actuel et la présidence actuelle, mais au moment où Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, avait déjà annoncé une repénalisation, disons, du droit de l'environnement, elle n'utilisait pas ce terme au hasard, c'est parce qu'on pouvait montrer qu'il y avait une forme de dépénalisation de fait, et c'était même un membre éminent de la magistrature qui l'avait indiqué, une dépénalisation de fait des atteintes à l'environnement qui, je ne sais plus, atteignait, on était peut-être à entre 1 et 2% de l'activité répressive. Et donc, c'est important, et ça nous permet d'avoir vraiment deux points d'entrée, des affaires ponctuelles, mais puis aussi, disons, le contentieux ordinaire. Or, celui-là, il n'est pas du tout, il prend pas du tout la forme d'une petite hausse continue. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur lequel j'espère vous pourrez rebondir l'un et l'autre, c'est la question de l'affaire du siècle qui nous a été posée sur le côté. L'élément que je peux juste donner, c'est que c'est un cas intéressant d'une notion non juridique, mais qui tente de bousculer sur le plan symbolique les représentations établies, et qui est celle de crime climatique. Il se trouve que c'est une notion à la fois intéressante, d'une part parce que, comme la question de la justice climatique est elle-même, disons, plus ou moins installée, ça ne fait pas la une des médias chaque jour, mais enfin, plus ou moins installée, ça permet de garder à l'esprit le fait d'une connexion qui est encore insuffisante entre ce dont on parle là, la question, disons, de la criminalité environnementale, et la question des inégalités environnementales ou de la justice environnementale, qui sont en réalité, évidemment, liés, voire très liés, mais qui sont, disons, deux domaines de réflexion qui ont tendance à se développer un peu parallèlement. Et c'est pour ça que l'affaire du siècle, ça permet de s'interroger sur cette notion de crime climatique ou d'une expression comme climaticide, qui ne sont pas encore, vous remarquez le encore, qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore.
Est-ce que vous pouvez simplement redire ce qu'est l'affaire du siècle pour nos spectateurs?
Oui, l'affaire du siècle, bah ça c'est Marine qui en parlera mieux que moi, mais c'est une plainte déposée contre l'État français en matière concernant le respect de ses engagements relatifs au changement climatique ou au dérèglement climatique, faudrait-il dire, pour ne pas dire au chaos climatique. Et donc c'est pour ça que ça m'amène à cette question de crime climatique, puisque c'est l'enjeu de la qualification dont on parlait tout à l'heure. Crime climatique, encore une fois, c'est pas une catégorie juridique, mais peut-être que ça peut le devenir, là encore, selon les rapports de force, selon l'action d'associations telles que celle de Marine Calmet, etc. Et donc, c'est un point important parce que même sans avoir, disons, une existence juridique, le fait même que peut-être cette expression de crime climatique, et il y a un livre qui s'appelle comme ça, un livre collectif paru au Seuil qui commence à faire ce travail, le simple fait que cette notion commence, disons, à pénétrer le débat public et peut-être petit à petit à se banaliser, bah ça peut jouer aussi par effet de ricochet sur la manière de l'appréhender juridiquement. Voilà.
Marine, sur l'affaire du siècle.
Oui, l'affaire du siècle, c'est une décision qui est très intéressante justement, qu'elle fait le lien en fait avec ce préjudice écologique tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, et démontre en fait la difficulté justement de prouver quel est le préjudice écologique subi, puisque même que justement on a affaire à clairement une carence reconnue par le juge dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, on se trouve, et le juge se trouve très démuni justement pour faire face finalement à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'État? Et en fait, dans la décision là, qui a été rendue il y a quelques mois, ce qui est très marquant, mine de rien, c'est que le juge réduit finalement à peau de chagrin la responsabilité de l'État dans cette affaire. Et ça, c'est quand même un signal qu'il y a encore beaucoup de choses à faire justement pour une reconnaissance de la justice climatique, mais bientôt peut-être qu'on parlera aussi d'une justice biologique avec l'extinction de la biodiversité. Il y a énormément de domaines dans le droit. En fait, le droit, malheureusement, c'est un puits sans fond aussi de potentiels recours dans des situations qui portent atteinte aux ces limites planétaires, puisqu'aujourd'hui, on doit vraiment parler de ça, malheureusement. Donc, une décision intéressante, mais on n'a toujours pas le jugement définitif, c'est-à-dire est-ce que le juge va aller contraindre l'État du coup à en faire plus? Et finalement, dans cette situation, qu'est-ce qui peut être poursuivi? Il faut bien voir que ce qui avait été marquant dans cette affaire, c'était que le juge se reconnaissait responsable uniquement pour aller poursuivre, enfin pour reconnaître la responsabilité de l'État dans le dépassement vis-à-vis des engagements pris par l'État sur une certaine durée de temps. Donc, c'était dans ce qui n'avait pas été atteint par le gouvernement que se situait sa responsabilité. Or là, justement, ce qui a été dénoncé par des associations comme le RAC, il me semble, donc le Réseau Action Climat, c'est que l'État a pris un peu les devants pour la prochaine action en responsabilité climatique et a modifié ses engagements prévus dans le cadre de l'accord de Paris pour les rabaisser et donc rester rester dans le cadre de ces engagements. Et ça, c'est extrêmement révélateur de justement comment le droit peut être modifié aux avantages des uns et des autres. C'est extrêmement, pour les juristes, c'est extrêmement frustrant parce que ça veut dire qu'on peut modifier les règles en cours de route, et ça, c'est inquiétant. Et donc, quand justement, il y a quelques mois, le gouvernement, parapopiliste, s'est glorifié de dire « nous avons atteint nos objectifs », alors même qu'en vérité, ils avaient rabaissé leurs objectifs, tout ça pour pouvoir effectivement les atteindre, mais pas en fait ceux qui étaient prévus à l'origine. C'est inquiétant parce qu'en fait, on voit aussi qu'on peut, l'arme du droit est à double tranchant, c'est-à-dire que quand on est dans le camp des plus forts, on peut aussi modifier la loi pour en faire justement un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons malheureusement aujourd'hui, aussi quand on est citoyen. Par exemple, je repense à l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Quand on dit à la base, la règle, c'est oui, vos propositions seront transmises sans filtre, et puis après, ça devient, hein, en fait, on ne s'était pas tout à fait bien compris sur le sans filtre, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, c'est on voit en fait que parfois il y a des règles du jeu qui sont changées en cours de route. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, le droit, parfois, il est déformé, il est utilisé pour servir les puissants. Quand je dis les puissants, malheureusement, c'est ceux qui nous gouvernent. Et on voit que pour les citoyens, c'est bien difficile parfois d'utiliser le levier de la loi, du droit, pour obtenir justice.
Là, en l'occurrence, c'est vrai que cette affaire d'engagement de réduction des gaz à effet de serre et de respect de la trajectoire en fait, prise par le gouvernement est assez caricaturale parce que en fait, l'État français a vu que le thermomètre n'indiquait pas la bonne température, donc il a cassé le thermomètre. Donc, il a pris un nouveau décret pour dire ah bah, finalement, on va reporter nos engagements et comme on ne peut pas respecter, eh bah, on va dire qu'on n'a plus d'obligations, mais on les reporte à plus tard. C'est vrai que c'est assez. Mais c'est la marque du pouvoir, ça. C'est-à-dire que c'était vraiment le fait du prince. Et ça a été contesté d'ailleurs hein, par un recours de la commune de Grande-Synthe hein, devant le Conseil d'État. Ce contexte-là, devant le Conseil d'État, donc en novembre, c'était 19 novembre 2020 que le Conseil d'État avait rendu sa décision. Où la commune de Grande-Synthe, qui est très exposée justement à les considérations climatiques par rapport à la montée des eaux, etc., à la pollution de l'air. Dunkerque qui est juste à côté. Zone industrielle très importante. Et donc, la commune de Grande-Synthe avait demandé en fait, au Conseil d'État de mettre l'État en demeure, d'apporter des justificatifs suffisants, à même à démontrer qu'il était capable de respecter ce nouveau calendrier qu'il s'était imposé à lui-même. Et donc, le Conseil d'État lui a laissé 3 mois pour apporter des gages de crédibilité des mesures qu'il comptait mettre. Mais le calendrier, ceci étant, avait quand même été modifié. Et donc, on a reporté à 2030 la réduction de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre qui devait à la base intervenir beaucoup plus tôt. Je ne sais plus quand exactement, mais je pense que ce n'est pas 2022, 2023, je ne sais plus à confirmer.
En tout cas, si je peux me glisser là-dedans, ce dont on parle ici, c'est la question du lobbying. Hein. On n'a pas encore prononcé le mot, je crois, mais évidemment, c'est central. On ne comprend rien à ce qui est considéré aujourd'hui juridiquement et socialement comme étant de la criminalité environnementale ou pas, sans prendre en compte le lobbying, disons, législatif ou réglementaire plus largement. Alors, on en a un exemple ici, actuellement très fort pour la loi climat, puisque les lecteurs et lectrices de au moins Mediapart, Reporter, etc., ont pu voir que ça s'agitait fort en coulisses. Mais on pourrait évidemment multiplier les exemples, celui des pesticides, celui des néonicotinoïdes, celui de tous les seuils de l'industrie chimique, etc. Et pas seulement évidemment en France, mais à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union européenne. Et ça, évidemment, c'est central. C'est-à-dire, on ne peut pas s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la criminalité environnementale, pour reprendre cette expression-là, sans s'interroger sur qui définit les seuils, etc. Qui coproduit la loi, pas seulement qui l'influence, mais qui la coproduit. Et tout ça fait l'objet d'un intense travail. Et on a plein de travaux là-dessus, il faut vraiment le savoir, y compris en France. Ceux qui me viennent à l'esprit là sur les pesticides, c'est ceux, par exemple, de Jean-Noël Jouzel ou plus largement sur les produits, les substances toxiques de Henri Boulier, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle de manière très parlante « Toxiques légaux hein, ». C'est, je veux dire, la question des perturbateurs endocriniens. Il y a des perturbateurs endocriniens dans les jouets des enfants, etc. Bon, ça, ce n'est pas de la criminalité environnementale ou même sanitaire. Et en même temps, ça a des effets sur les deux. C'est a des effets proprement écologiques au sens où ça a des effets sur les êtres humains, mais dans leur environnement, sans qu'on puisse faire la distinction entre les deux. Tout ça est évidemment central. Alors, je vois qu'on a une question sur les mesures compensatoires. Ouais, je ne sais pas si vous...
Dernière question, peut-être, parce que le temps avance, il est déjà 14h29, donc ce sera certainement la dernière question.
Peut-être j'essaye d'aller vite là-dessus. C'est un point central, cette affaire de mesures compensatoires. Il y a plein de manières de l'attraper. J'en donne deux comme ça, pour discuter. La première, c'est de dire que l'expression même de mesures compensatoires, elle fait partie d'une espèce de lexique général. Auquel on peut ajouter par exemple celui de service écosystémique, qui est très très important parce que c'est une manière de redéfinir les enjeux et de les définir, disons, d'une manière, je vais un peu vite, mais compatible avec la logique marchande, c'est-à-dire d'envisager l'environnement ou la nature que par rapport aux services qui peuvent nous rendre, et donc éventuellement de ne pas abîmer ces services qui peuvent nous rendre. Enfin, c'est très problématique, et donc c'est solidaire d'une représentation de l'écologie où tout doit être quantifié avant même d'être marchandisé et quantifiable, etc. Il y a, je pense à Virginie Maris, par exemple, qui a écrit des choses là-dessus pour faire une critique de la notion de service écosystémique. On pourrait ajouter mesure compensatoire, qui me paraît tout à fait intéressante. Et puis, il y a des collègues lillois, là, je vais faire allusion à des collègues lillois, il y avait un collectif qui s'appelait De l'impunité, où il y avait de mémoire deux contributions sur l'impunité en matière environnementale. Et l'une de ces contributions, qui était de Delphine Pouchin, qui travaille à Lille, c'était de dire que, ben, en fait, quand on paye, disons, même une taxe ou même une mesure pécuniaire, une sanction pécuniaire après avoir pollué, ben, c'est une sorte de droit à polluer, en fait. Hein, c'est-à-dire, on a un droit à polluer pourvu qu'on paye la taxe correspondante sous forme de sanction financière. Bon, c'est intéressant de se représenter les choses comme ça, parce que ça permet aussi parfois de mettre en perspective des peines pécuniaires qui peuvent apparaître dans l'absolu très importantes, mais qui, en fait, rapportées par exemple au chiffre d'affaires d'un groupe industriel, sont très faibles. Voilà. Après, sans vouloir être trop long, la difficulté des mesures compensatoires, je dirais, c'est que c'est un domaine, par exemple, où pour privilégier le domaine environnemental, ou pour privilégier l'arrêt d'un dommage en train de se causer, on a tendance à sous-qualifier les faits pour pouvoir agir plus rapidement et pas lancer toute une procédure. Et donc, ça crée comme ça des effets en cascade qui sont liés à la fois à la qualification, à leur manière d'entrer dans le circuit judiciaire, etc. Et qui peuvent en plus, comme l'a dit la personne qui a pris la parole, ne rien compenser du tout, c'est-à-dire éventuellement être à côté de la plaque ou pas être du tout à la hauteur du dommage causé.
Il ne faut surtout pas être pessimiste sur la très grande capacité inventive pour l'homme de réifier ses droits à polluer. Hein, je rappelle que quand même, les quotas d'émissions de carbone sont l'objet d'un marché financier dédié sur lesquels ça s'échange. Et donc, de ce point de vue-là, on est toujours très, très inventif et performant pour pouvoir négocier toute chose, y compris le droit de polluer. Alors, une dernière question peut-être.
Peut-être que Marine avait quelque chose à dire sur les mesures.
Oui, sur les mesures compensatoires, non ?
Pour moi, c'est très révélateur justement du caractère, encore une fois, anthropocentré, c'est-à-dire que l'humain peut tout à fait réparer absolument tout. Et alors que, par exemple, on voit, moi je travaille sur les projets miniers en Guyane, comme vous l'aurez compris, replanter une forêt primaire, c'est impossible. Elle ne sera jamais identique, il n'y a pas de mesure compensatoire possible pour la destruction d'une forêt primaire. Et ça, n'importe quel Amérindien vous le dira, il n'y a pas besoin d'avoir fait justement de grandes études pour le savoir, il suffit d'avoir un peu de contact avec la nature. Mais malheureusement, c'est ce qui nous arrange, encore une fois, qui est inscrit dans notre droit et pas ce qui est vrai, scientifiquement parlant. Et je comprends tout à fait que cette personne qui a posé la question est dans les SRSBN. On se pose la question justement de savoir quelle est notre place justement dans ces institutions pour faire entendre aussi la voix de la nature, parce que malheureusement, bien souvent déjà, quand le CRSPN est saisi ou le CNPN au niveau national, parfois déjà il est trop tard. Moi j'avais eu le cas par exemple en Guyane française où Total s'était bien passé de saisir justement le Comité national de protection de la nature, alors même qu'il forait dans une zone où il n'y avait que des espèces protégées, des tortues, des dauphins, des baleines, des rorquals, mais ils étaient bien justement garder de saisir les institutions qui devraient être le garde-fou en matière de protection de la biodiversité. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une collusion très claire justement entre l'État, qui devrait être le garant de l'intérêt de la protection de la nature, et puis ces industriels qui passent outre tous les garde-fous qui ont été mis en place pour protéger la nature, mais qui obtient malgré tout le feu vert de la part de notre administration. Donc, nous, on est évidemment dans cette position où on ne peut qu'observer et témoigner de ce qui se passe très concrètement sur le terrain, et j'espère justement qu'il va y avoir un renforcement des pouvoirs des CRSPN, des CAPN, mais aussi du Haut Conseil pour le Climat, et c'est pour ça que nous proposions la création d'un Haut Conseil pour les limites planétaires, pour les limites planétaires avec la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'il nous semble qu'il nous faille une autorité scientifique aujourd'hui qui soit transministérielle, qui ait des compétences plus élargies, des capacités aussi plus élargies en matière justement environnementale pour guider l'action publique aujourd'hui, mais guider fermement maintenant, et plus justement des petits avis, mais vraiment contraindre aussi parfois l'État en leur rappelant que justement ils sont dans l'illégalité quand ils détruisent la nature et qu'on aille vraiment vers une société qui respecte les limites planétaires, le fonctionnement du vivant et qui se dote d'un droit, je dirais même en biomimétisme, qui respecte notre construction écosystémique et qui nous permette de garantir aux générations futures en fait une terre en bonne santé.
Bah écoutez Marine, je pense qu'il n'y avait pas meilleure conclusion. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On a débordé un tout petit peu, mais bon, pas énormément. Et puis, bah écoutez, j'aimerais aussi remercier bien entendu la MEJ de nous avoir permis de débattre ensemble et aussi le Réseau national des maisons des sciences de l'homme pour avoir estampillé dans son cycle de séminaires la présente rencontre. Voilà, Constance, je te cède la parole peut-être pour un dernier mot et encore mille merci aux intervenants de nous avoir éclairés sur ces enjeux fondamentaux.
Merci à toi.
Et à mon tour, Jean-Christophe, Marine et Grégory, de vous remercier très chaleureusement. Alors, il s'agissait de la dernière rencontre de ce 12e printemps des sciences humaines et sociales consacré au végétal. Sachez que vous pourrez retrouver les enregistrements des rencontres sur le site publi.mesh.fr. Je vous signale également le prochain webinaire du cycle « Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales » qui aura lieu le lundi 26 avril à 12h15 et qui s'intitule « Odenor, effet de la pandémie sur l'accès aux droits et aux soins en France » et qui nous est proposé par la MSH Alpes. Voilà, encore merci à tous de nous avoir suivis et bon après-midi.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.